Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz pour le podcast BPM Debout Scapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Kyo Itachi. Salut Kyo.
Salut Raphaël.
Bienvenue à toi dans l'émission BPM.
Je te remercie pour l'invite.
Merci à toi d'être venu. Kyo Itachi, tu es producteur, tu as composé pour beaucoup d'artistes depuis environ une quinzaine d'années, notamment aux États-Unis, avec des albums entièrement produits pour des rappeurs, aussi des compilations avec beaucoup de légendes, notamment du rap new-yorkais. Mais on te connaît aussi en France pour tes prods pour Alpha One, Mash Traffic, Eloquence et Joe Lucas, Caballero et Jean Jass. Ton album de producteur, Solide, paru en 2022. Tu as également sorti plusieurs disques instrumentaux. Et on t'accueille surtout à l'occasion de la sortie de l'album Pièce montée de Danny Dan, que tu produis intégralement. C'est le deuxième album du rappeur des Sages Po qui sort 18 ans après son premier, Poétiquement Correct. Donc c'est quand même un bel événement dans le rap français.
Bien sûr.
On va évidemment parler de ce disque, mais comme j'ai l'habitude de le faire avec les producteurs qui, comme toi, sont devant ce micro, j'aime bien aussi qu'on comprenne un peu votre parcours musical et déjà votre parcours d'auditeur. Kyo, c'est quoi ton premier souvenir lié à la musique ?
Alors, mon premier souvenir lié à la musique, c'est par rapport à ma mère, c'était avec Michael Jackson.
Ok.
On était en Martinique, il y avait Thriller qui sortait, il y avait le clip là. Il se transforme en loup-garou.
Ouais, presque moyen métrage, quoi, vu la longueur du truc, quoi.
Et à l'époque, j'étais vraiment petit et ça m'avait choqué. Et après, ça a suivi avec Bad et Dangerous. Et puis, quand on voit le clip Jam avec Michael Jordan, tout ça, et je commençais déjà à regarder basketball NBA. Et ma mère, elle aimait trop Michael Jackson. Mon père, c'était plus Bob Marley. Le compas, les trucs. Enfin, ma mère aimait le zouk, mais
parce que tes deux parents sont d'origine
martiniquaise. Ouais. Okay. Et c'est de là, et j'avais une tante, une sœur à mon père qui achetait beaucoup les singles. Et je me rappelle qu'elle m'avait acheté Snow. Et nous, comme on n'avait pas de, j'étais trop jeune, je voyais pas comme ceux qui ont connu Rap Attitude, tout ce truc-là. Donc j'ai découvert tard. Ça a commencé avec MC Solar.
T'es né en quelle année, si c'est pas
80.
Ok, donc oui, effectivement, tout début des années 90, c'était vraiment à la fin de de l'enfance, début de l'adolescence.
Ouais. Je vois les grands avec du Public Enemy, du NWA, toutes ces choses-là. NTM, j'avais un grand de ma cité qui était à fond dans NTM.
Tu es d'où exactement, justement ?
Blanc-Ménil, 93.
93, ouais.
Ouais. Donc, je disais, ça a commencé aussi avec MC Solar, j'avais c'est compliqué à expliquer, mais c'est un cousin lointain qui connaissait MC Solar et qui avait des exclus comme Bouge de là, le remix avec, je crois, si je ne me trompe pas, je sais qu'il y a Melaz et peut-être Sony MC, un truc comme ça.
C'est possible, ouais, en tout cas des gens du 501, quoi.
Voilà, j'étais à fond là-dedans et puis il y a eu une coupure, je ne sais pas pourquoi. On m'a offert à un anniversaire l'album de Warren G. C'était super, tu vois, parce qu'il y avait le tube là.
Regulator, avec Nate Dogg.
Voilà, et je sais pas, c'était en mode auditeur. Et après, le déclic, c'est 95. Je faisais du basket, je vais dans le vestiaire et j'ai deux gars qui disent « Ouais, t'as vu le dernier méthode et tout là, le single et tout avec Mary G. »
« You're all I need to get by. »
Voilà. Il me dit, je dis, c'est qui Method Man ? Parce que je ne connaissais pas du tout, moi, tu vois. Et le blaze, il était spécial, tu vois. Et moi, j'essayais de traduire. Method Man, l'homme de la méthode, je ne comprenais pas, tu vois. Et je sors, je vois mon futur meilleur pote, Azaya. Et direct, il me dit, pourquoi tu fais cette tronche et tout ? Je lui dis, ah, je ne connais pas. Method Man, c'est qui et tout. Il me dit, non, tu connais pas Method Man. Je lui dis, ouais, tu vas pas
commencer. Tu commences à te faire charrier.
Ouais, et tout, tu vois, parce qu'ils étaient vraiment dedans. Et puis, c'était des mecs du même quartier et tout. Et après, bam, ça... Il me dit de passer chez lui, il me passe des cassettes de UMTV Rap, des cassettes qu'il a concoctées spéciales Wu-Tang. Donc au bout d'une semaine, je savais qui étaient les 9 membres, et j'étais à fond là-dedans et ça s'est resté dans mon ADN et tout.
Donc en fait, ta vraie porte d'entrée ou ton vrai déclic sur ta passion pour le rap, un peu consciente, c'est le Wu-Tang en fait.
Je me rappelle d'un tournoi de basket où j'arrive et tout, je vais à mon club et tout. Et il y avait un DJ qui avait ramené ses platines et ça mettait du son et tout. Et dès que je rentre, hein, vraiment dès que je rentre dans le gymnase, j'entends Shimmy Shimmy Yo, j'entends les notes de piano, tout le monde sautait, on avait tous des doudous noirs et tout. Et c'est resté et je commençais à faire le lien. Et puis comme j'avais les cassettes vidéo, tu sais, qu'on me les prêtait et tout. Et même Mobb Deep, là, El Honors.
C'est-à-dire en 96.
Ouais.
Ouais, 96, ouais.
96. Parce que moi, comme l'album du Wu-Tang, enfin d'un des membres du Wu-Tang qui sortait au moment où j'ai connu ça, c'était Liquid Sword de Genius.
Et pas n'importe quel album.
Voilà, tu vois. Et j'ai été en arrière, tu vois, pour connaître ce qui s'est passé. J'étais quelqu'un de... Je suis toujours, hein, de très curieux. Et derrière... Il y a le Iron Man qui sort.
The Ghostface.
Et là, je dis, tu sais, j'ai mes économies, tout ça. Là, à l'époque, bon, à ce moment précis, j'ai pas de thunes.
Bah oui, t'es adolescent, là, si on est en 96-97, ouais, t'as 16-17 ans. Ouais.
Ouais, je vais sur mes 16 et tout. Et je vois dans un magazine que le Ghostface, il sort et tout. Donc, on va à Carrefour avec ma daronne et tout. Mais je dis, ouais, je peux. Elle me dit, prends quelque chose, tu vois, c'est que tu veux quelque chose. Et je dis, ouais, j'aimerais bien céder et tout, je cours. Mais tu sais, quand tu vas dans le Carrefour à l'époque, le rap là-bas, c'est MC Solar, IAM, NTM.
Bien sûr, les gros succès français, voilà, qui commencent à enfin arriver dans le rap français. Ouais.
Voilà, Wu-Tang, je me dis, ouais, j'espère, tu vois. Et j'arrive et je le vois, j'en vois, il n'y en a qu'un seul. Tu vois, je le prends, je cours et tout, tac, je le mets dans le caddie.
C'était le destin.
Ouais, de ouf. Et je m'en rappelle, hein, quand je l'écoute, je le comprends pas, hein. Bah, par rapport aux autres.
Bien sûr.
Au début, je le comprends pas. Et après, bon, avec les clips et tout, il y a un de mes sons préférés dedans, la Camé.
Mm-hmm.
Ouais. Enfin, il y en a plein, mais le Camé, là, c'est... Et ensuite, t'as Lutpak, tout ça. Enfin, je viendrai si t'as d'autres
questions. Bien sûr, oui, bien sûr. Sur après ton parcours.
Mais le Wu-Tang, ouais.
Mais c'est intéressant parce que forcément, on va y revenir sur le Wu-Tang. C'est pour ça que je voulais qu'on insiste un peu là-dessus.
D'accord.
Sur ton lien particulier parce que, ensuite, dans ton parcours de producteur, sur une certaine signature sonore, on sent une filiation, un héritage que t'as repris. Donc, je voulais qu'on en parle au moins un petit peu.
D'accord.
De ce goût pour le rap qui s'affirme au milieu des années 90, à quel moment, toi, t'as envie d'en être ? C'est-à-dire de passer d'auditeur à artiste.
En fait, comme on dit souvent avec mon pote Azalia, c'est que ça nous est tombé dessus. Je me suis jamais dit, ouais, je veux produire et tout, tu vois. Moi, déjà, c'était pire. C'est-à-dire que je savais même pas comment on faisait les instrus.
Comme beaucoup de gens à l'époque, je pense. C'était vraiment un secret d'initié, en fait.
Ouais, je me dis, je savais même pas c'était quoi un sampler. Je voyais, tu sais, quand je regardais les crédits, je voyais un studio. Je me dis, ouais, c'est fait avec l'ordi, tu sais, tu vois l'Atari, donc ouais. Tu dis, il y a toutes ces machines-là, ils font ça avec ça, mais tu ne vas pas creuser, tu vois. Et un jour, on est en 2000, je sors du taf et tout, je rentre chez moi et tout, et j'entends une basse, j'entends un truc lourd, que j'avais un voisin qui s'appelle Olje, et qui est DJ producteur et tout, et il avait la MPC 2000 XL.
Okay.
À ce moment-là, je ne le sais pas, tu vois, j'entends boum, boum, j'entends vraiment un truc lourd, tu vois. Et c'est lui qui sonne chez moi. Il me dit, ouais, passe. Mais on est vraiment voisins de palier au quatrième, tu vois. Tout en haut du bâtiment.
Toujours au Blanc-Ménil.
Ouais, au Blanc-Ménil, ouais. Et bim, ça enchaîne avec... il me fait rentrer. Il y a une sorte de drap, là, pour couvrir la MPC. Mmh. Il soulève et je vois un gros truc. Mais pour moi, quand je le vois, je crois que c'est une console.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, c'est un délire comme une console Super Nintendo et tout. Se balade avec des pads. Je dis, c'est quoi ? Ça me dit, c'est un sampler et tout, c'est une MPC 2000 XL et tout, on peut faire du son et tout. Et je lui dis, ok. Il me dit, repasse dans une heure, je repasse. Tac, il fait le son. Mm-hmm. Il fait un son à la flip mode avec, tu sais, des trucs de violon. J'avais ramené du Mozart et tout. Et là, il y a un déclic parce qu'il me dit d'appuyer sur play. Et en fait, tu sais, j'ai une métaphore que je dis souvent. Je dis, j'appuie play à ce moment-là et ça, là, mon destin, il est. Parce que ça part de là, hein, ouais, du play que j'ai appuyé.
Du moment où tu appuies sur l'MPC 2000.
Toute la vibration, la grosse caisse claire, la basse, le sample. Je me dis, mais bah, c'est ce que je fais. Je lui dis, il me le faut, ça. Et lui, il rigole. Il me dit, tu peux pas l'avoir, c'est pas comme ça. Je dis, comment ça ? Il me dit, ça coûte cher.
Mais oui.
Et à l'époque, ça fait 2 mois que je travaille.
Donc, t'as quel âge à ce moment-là ?
20 ans.
Ok, donc on est en 2000.
En 2000, on est en 2000. Poil, ouais. Et j'enchaîne et tout, je cherche.
Et, quand tu dis du travail, c'est qu'en fait, t'as arrêté les études ?
Ouais, j'ai passé des études à travailler t'sais, dans la vie...
La vie active, quoi.
Voilà, exact.
Ok.
Et dès que je capte ce que c'est, j'en rêve, comme je rêvais d'avoir une console à Noël, tu vois. Mais là, c'est pas mon père, c'est pas ma mère qui va me l'offrir.
Eh oui, là, c'est toi avec ton argent et ta responsabilité, voilà. Ouais.
Je dis, comment je vais faire ? Je regarde et tout. Et je me souviens que j'avais un Sono magazine qui était parmi mes magazines, la fiche radicale. J'achetais beaucoup de magazines et tout. Et je vois qu'il y a des annonces à la fin. Et je vois qu'ils vendent la MPC et tout ça. J'appelle, je passe des coups de fil. Je demande les moyens de paiement. Et à un moment, il y a un magasin à Stalingrad qui me dit, on peut payer en 4 fois. Je suis parti direct. Le soir, je suis rentré avec. C'est-à-dire, je l'avais. J'ai sonné chez mon voisin. Je dis, regarde, je l'ai. Mais en fait, je savais pas. Et il me regarde. Il me dit, mais tu sais pas t'en servir et tout. Je lui dis, ah, ben, tu vas m'apprendre et tout, tu vois. Et je passais à sonner chez lui. Je ramenais ma MPC. Il venait chez moi. Et il m'a fait une culture du sample. Pareil, j'ai piqué Azaya par le même truc parce qu'il s'était blessé. Il m'avait demandé de lui prêter. Mm-hmm. Il m'a dit, il m'en faut une, Kyo. Enfin, Fab. Mon prénom, Fab. Et j'y vais. Je lui ramène sa MPC. Lui, il était plus dans les prods et moi, plus dans l'écriture rappée.
Parce que tu rappais aussi en même temps.
Ouais.
Ah, ça, c'est important.
Les deux en même temps.
Ok. Donc, dans l'origin story de Kyo Itachi, il y a aussi un moment où tu rappes.
Oui, je rappais, ouais.
Ok. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que t'as été piqué en même temps. À partir du moment où t'as commencé à aimer le rap de manière consciente, t'as commencé à griffonner, à poser, tu vois. Parce qu'encore une fois, tu le disais, il y a cette... comment dire, le fait que le matériel soit difficilement accessible dans les années 90, mais il y a aussi les studios, tu vois. C'est-à-dire que voilà, ce truc de vouloir faire de la musique, comment tu le fais en étant un Blanc-Ménil et en étant un jeune rappeur en herbe, quoi ?
Oui, ben, c'est pas facile parce qu'en fait, ça me tombe dessus en même temps que...
Oui, j'imagine, ouais.
...que faire de la prod. C'est-à-dire, je m'en souviens plus trop bien, mais je sais que c'est en même temps. Et en fait... Un jour, je viens, pareil, c'est le même procédé. C'est mon voisin, il écoutait du son.
Donc, toujours Old Jay ?
Ouais, Old Jay. Ouais.
En fait, le Old Jay, c'est ton sensei, quoi. C'est le mec.
Ouais, je l'appelle comme ça. Cool. Lui, il m'a transmis des choses de ouf. Hein. De 2000 à 2004, il m'a montré un peu tout ça. C'était dur pour moi de comprendre. Moi, je mettais du temps à l'époque.
Oui, parce que tu n'avais vraiment aucune connaissance musicale, à part ta passion.
Base,
c'est-à-dire
rien,
que
ouais.
chez tes parents, c'était des amateurs de musique.
Ouais.
Mais il n'y a jamais eu de fibres artistiques dans le sens où ils t'ont rien transmis en termes de connaissances musicales.
Ouais, ouais, j'ai acheté des disques, tout ça, mais ça s'est rempli même très vite avec les sorties qu'il y avait entre 80, même ce que j'avais raté 95, 94, 93, il fallait rattraper.
Bien sûr.
Et en travaillant, ça. Mais ce que je veux dire, ouais, c'est que ça m'est tombé dessus comme ça et quand je sais pas, je ferme ma porte et j'entends encore un bruit sourd, mais j'entends des voix. Et je sonne et il me dit, ouais, vas-y, rentre, il y a des rappeurs et tout. Il y avait des proches, des gars qui gravitaient autour de Kondo, tout ça.
Ok.
Et
Kondo, donc de rappeur anciennement de la clique. Ouais.
Voilà, exact. Et il y avait un gars qui s'appelle Servin, son nom de rappeur, c'est Casso. C'est un des gros rappeurs qu'on ne connaît pas que j'ai rencontré. Et qui a il y en a plein qui le connaissent dans le milieu. Il était vraiment très, 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 très fort. Et le truc, c'est que je le vois rapper et je vois tout le monde rapper et je deviens timide. Je suis contre le mur et tout, contre la porte. Et il y a un des mecs, le mic en fait, il tourne. Et un des mecs qui vient, qui me passe le micro et je dis, ah non, moi je rappe pas. Mais tu sais, quand je le dis dans le micro, tout le monde se tourne et entend ma voix et dit, c'est quoi cette voix et tout. Et ils me disent, teste un truc, je sais pas et tout. Donc moi, je connaissais un texte de Busta Flex, Kick Ake Menai.
Bah ouais.
Je connaissais par cœur, donc j'ai rappé ça. Et après, je les ai prévenus. Hein, ouais. Tu vois. Et ils m'ont dit, hey, mec, continue. Hein. T'as une voix, t'as un truc, faut que tu continues. Je continue un peu. Je faisais des trucs de 8 Miles à écrire dans le métro, mais avant avant que le largement avant que le film sorte. Et j'embêtais mon voisin à m'enregistrer. J'avais des fois un 8 mesures. Je voulais juste tenter ma voix sur une face B.
Bien sûr.
Et j'ai rencontré le tout est lié, hein, parce que je rencontre le groupe Benzen.
OK.
Et en fait, on m'appelle, on me dit, ouais, Azaïe m'appelle et me dit, ouais, Asco de Benzen, il a... Enfin, Benzen, puisqu'il y a Rodrigo aussi, j'ai oublié, Khalil, il s'appelait. Et ils avaient posé avec Wild Child. Mais moi, à cette époque-là, je suis à fond dans Stone Throw.
C'est parce que tu me parlais de Loot Pack tout à l'heure, justement.
Oh, ouais.
Donc Stone Throw, pour ceux qui ne connaissent pas, label indé, un peu backpacker, on va dire, à l'époque, oui, c'est un peu l'étiquette qu'on utilisait, de Californie, oui, de Los Angeles, même pour être plus précis, je crois.
Oxnard, exactement.
D'Oxnard, exactement. Ouais. Et donc, oui, qui sont très importants parce que c'est Mad Lib, parce que c'est tout ça. Et donc, Casimoto, tu disais aussi Loot Pack, etc. Quoi, voilà.
Toute une clique et tout, avec D-Clem. Mm-hmm. Et, bah, je me prends tout ça dans la tronche. C'est-à-dire que dès que je sortais du taf, j'allais à Urban Music ou Street Sound, non, Sound Record. Et dès que je voyais
le logo...
Tout
ça, c'est des magasins spécialisés qui étaient à Paris pour acheter des vinyles.
Ouais, à Châtelet, exact. Mmh. Dès que je voyais le logo, je n'écoutais même pas. Hein. Je
prenais tu voyais le logo, c'était Stone Throw, pour toi, c'était
je rentrais chez moi.
Le gage de qualité, le saut de qualité.
Je voyais Mad Lib, prod Mad Lib. Je voyais des métaphores, on ne connaissait même pas. Mmh. Hein. Je prenais direct, je rentrais chez moi avec Coldier, on se prenait des tartes ou Azaïa, ça passait... Ça, j'ai acheté beaucoup maxi, d'où j'ai toujours la collection, je ne m'en sépare pas. Quoi.
Parmi tout ce que tu as écouté à cette époque-là en rap américain, est-ce qu'il y a, je sais pas, une production qui a été un peu capitale, tu vois, dans ton envie de faire de la musique? Genre, je sais que c'est compliqué parce qu'il doit y en avoir des centaines, tu vois, mais un truc, je ne sais pas, encore aujourd'hui, quand tu l'écoutes, tu te dis, il y a une magie, y a, tu vois, vraiment un morceau un peu pivot, tu vois, dans ton parcours d'auditeur et d'envie de produire, quoi.
Moi, en fait... Il y en aurait plein, parce qu'il y a plein de périodes.
Bien sûr.
Quand, surtout cette période-là, il y a tellement de trucs qui sortent que... Mais j'en ai une que j'écoute jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je l'écoute, soit j'ai envie de me battre, mais dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, c'est une baston, je suis là. Mais si, par exemple, me battre dans la vie, ou même faire du sport, tu sais, ça a un truc qui me donne...
Du jus, quoi.
Ouais, de ouf. C'est Get Off My Block de... Busta Rhymes avec Lord Dave Mercier.
Produit par DJ Scratch.
Ce son me rend ouf. La basse, le sample qu'on n'arrive pas trop à décrire ce que c'est. Mm. Et c'est simple. C'est grave simple. C'est une boucle et ça tourne. Mais les deux là-dessus, c'est... Et quand je l'entends, la basse, tu sais, c'est chaud. C'est le seul son avec aussi un son d'MOP, mais le son connu, là.
Anti-Up.
Ouais. Ben, ça me fait à peu près le même effet, mais l'autre, là, c'est underground.
Ouais, il y a un truc un peu mystérieux.
Ouais, comment ça tape. C'est lourd. Après, ouais, il y en a
plein. Mais c'est cool que tu cites ça parce que c'est pas un morceau des plus connus de la discographie de Busta Rhymes, ni de la discographie de DJ Scratch d'ailleurs. Mais c'est un super morceau en effet, donc c'est cool que tu nous indiques celui-là. Est-ce que tu te souviens de ton premier placement de production?
Alors, en tant que. Ouais, mais je me nommais Coaster quand.
Ah, ok.
Kyo, il n'existait pas encore.
Ok. Donc avant de t'appeler Kyo Itachi, de signer Kyo Itachi, tu as eu un autre blast qui était donc Coaster. C'est ce que
Coaster, c'était mon nom de rappeur pour en revenir vite fait.
Ouais, ouais.
C'est que j'ai fait un maxi où il y avait Benzen. Mm-hmm. Parce qu'en fait, je ne les croyais pas, moi, à l'époque. Je disais, ouais, c'est impossible. White Child. Et après, Ono, l'année d'après, je dis, ouais, c'est pas possible.
Comment ils ont fait cette connexion, quoi?
Ouais, donc je viens et ils l'ont vraiment fait parce que je les accompagnais, déposais. C'est comme ça que j'ai appris comment on faisait un disque, vinyle et tout. Donc je dis, ah, je vais faire un maxi, je le fais. Il y a Aloe Black, il y a un morceau avec Aloe Black.
C'est vrai qu'Aloe Black, pour ceux qui connaissent surtout sa carrière de chanteur, au départ, c'était un rappeur qui était sur Stone Throw, justement.
Ouais, exact. Et derrière, bim, on enchaîne. Et j'ai fait un groupe qui s'appelle Mauvais Vagabond. Mm-hmm. On avait une prod de Marco Polo à l'époque.
Chaud.
Et on avait un feat avec Dabaz.
Et c'est marrant Marco Polo parce que ça fait lien avec autre chose dont on va parler après. Mais bon,
d'accord.
Voilà.
Marco Polo et Dabaz de Triptyque. Alors qu'à l'époque, c'était 2007. Mm-hmm. Et après, j'ai arrêté de rapper quand Astronaute... Désolé, mon gars. Mais c'est un mal pour un bien. En fait, il avait fait une prod de ouf. que je lui avais prise. Et quand je viens à Orléans pour rapper...
Donc Astronaute, oui, qui est un producteur originaire d'Orléans.
Oui, voilà.
Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, il a notamment produit pour Kendrick.
Ouais,
il a produit ensuite pour SPM en France, DC's, SPM en France, voilà, etc.
Donc, beaucoup de monde, ouais, beaucoup exact. De... Et aussi Ol' Kinry.
C'est vrai.
Il y a un morceau de ouf de Ol' Kinry, je ne sais plus, c'est sur l'album Demolition Man, en tout cas. Et du coup, j'arrive et j'entends un Kinry sur une prod que moi, j'avais rappé dessus. Mais il m'avait dit, je préfère entendre le Kinry que toi. Et moi, en fait, ça m'a un peu vexé, mais ça m'a fait réfléchir, en fait. Et ensuite, il m'a souvent dit, pourquoi tu fais pas tes prods et tout, tu vois. Il y a aussi Vincile qui disait que j'avais quelque chose.
Grande pointure de la production.
J'ai fait écouter mes premiers trucs MPC. Il m'a dit, tu devrais continuer, il y a quelque chose. Et KOH. J'étais allé chez lui, il m'avait invité, je lui faisais écouter des... C'était même pas Kyo encore. Mais il me disait, t'as quelque chose, continue. Ça, je m'en souviens, tu vois.
Bah, quand c'est des personnes réputées, parce que c'est des personnes qui sont talentueuses aussi, quoi. Te disent ça, j'imagine qu'effectivement, si t'es un minimum intelligent et que tu sais mettre ton ego de côté, tu vois, bah, tu prends ça en compte et tu persévères, quoi.
Oui, dans la prod. Après, le truc qui m'a fait persévérer, c'est vraiment quand j'ai plus vu Old Jazz. C'est-à-dire que comme il me montrait les bases, toutes les choses que je connaissais pas, et que quand il est parti et qu'il a déménagé, j'étais tout seul. Et en fait, je savais plus comment faire. Je me disais, comment je vais faire? J'ai revendu mes samplers. J'enchaînais.
Donc, on est où là? On est au milieu des années 2000 à peu près?
2004.
On est 2004, ok.
Ouais, 2004. Je vends, je rachète. Il y a des samplers qui sortent, je rachète, je revends. Je me trouvais pas encore et la naissance de Kyo Itachi vient de là. C'est-à-dire que de 2000 à 2007, j'estime que pour moi, c'est comme si j'étais Ken le survivant et que c'était la traversée du désert.
Ouais.
Tu vois, je vois ça un peu comme ça.
T'étais un peu en formation encore, quoi.
Voilà, exact. Et en fait, ce qui fait que je deviens Kyo, c'est qu'à l'époque de MySpace, je m'appelais Saiyanjin à l'époque où on a fait l'album Mauvais Vagabond là, avec Marco Polo, tout ça. Et... je disais, ouais, on calcule pas ce que je fais. Tu sais, t'avais des lecteurs. Et je me dis, on me prend pas au sérieux. Quand je propose des prods, tu sais, c'est jamais pris au sérieux. Et j'ai pris le seum. Et en fait, nous, au Blanc-Ménil, on est une ville de gars qui attrapent le seum vite. Pour rien, tu vois. Tu sais, pour rien. Et on a gardé ce truc-là, tu vois. Et à l'époque, c'est pas que j'ai la haine, mais je comprends pas.
Ouais, t'as une forme de frustration peut-être, ou d'aigreur. Ouais,
ça va dans mes proches, je fais, il n'y a rien de bien. Personne ne te dit, oh, ta prod, elle démonte, jamais. Et j'enlève le MySpace, j'efface tout. Hein.
Okay.
Les sons, la photo, j'enlève tout. Je l'ai appelé Pomme, je le dis souvent ça. J'appelais ça Pomme pour galerie que tu sais, t'avais un top ami. Et en fait, Pomme apparaissait dans le top des autres, tu vois, je me moquais d'eux, en fait.
Ouais.
Et j'éteins, je regarde un manga et je vois Naruto Shippuden. Et il y a le personnage Itachi qui apparaît. Pour moi, l'équivalent de Vegeta dans Dragon Ball, au niveau du charisme, son côté sombre, tout ça. Et je mets Itachi sur une feuille. Et comme mon nom de famille, ça commence par un K. Je mets K, plus loin Itachi et... Je me dis, il y a un gars que j'aimais bien jouer à un jeu de combat avec, Kyo, dans King of Fighters. Bam, j'écris, je trouve l'orthographe là-dessus. Je fais ça, je refais un MySpace une semaine après, je vais chez Azaya, je fais des prods comme ça et je vois que j'arrive à faire quelque chose.
Alors, juste sur cette réinvention, c'est-à-dire que même musicalement, tu essaies de te réinventer à ce moment-là.
Ouais, en fait, tous les trucs d'Old Jack qui m'avait appris, ça me revient, comme j'ai une bonne mémoire, ça me revient. Je commence à faire des trucs, Azaya me dit, c'est pas mal. Et je regarde, c'est une des premières fois qu'il me dit « c'est pas mal ». Je reviens une deuxième fois, je fais un deuxième. On les garde, ils m'encouragent aussi, hein, tu sais, faut le dire. Et derrière, j'ai dit « il me faut une MPC ». En fait, je vais voir un gars, big up à lui, un gars qui s'appelle Pisco MC, un rappeur latino et tout, qui vit à Paris et tout. Et quand je vais chez lui, il me fait penser à Alchemist. Ses sons, ça me fait penser à Alchemist. Il est très propre, tout est cadré, tout est bien mis. Table de mixage, tac, ça me redonne un truc. Je vois la MPC, je dis, ah, il me la faut et tout. Donc quand je rentre, je dis à Azaya, tu connais pas quelqu'un qui en a une.
Donc tu avais déjà une MPC 2000 XL, c'est ça?
Des 2000 XL, j'en ai au moins 3-4.
Alors du coup, tu passes à quoi là?
Non, je reviens à la 2000XL.
Ah, tu reviens à la 2000XL.
J'avais plus rien, en fait. Okay. Chez moi, je m'étais débarrassé de tout. Je rappais seulement.
Ouais.
Et en fait, quand l'envie me reprend que je crée Kyo, parce que j'allais chez Azaya, comme j'avais plus d'MPC, j'allais chez Azaya pour en faire. Et bim, derrière, j'achète cet MPC, que j'ai toujours d'ailleurs, en 2006. En 2007, pardon. Et je crée Kyo Itachi. Et je rentre chez moi, je commence à dire, ouais, j'étais l'agent d'astronaute aussi. C'est-à-dire pour plein de quinries qu'il a produit, Il Bill, Wild Child sur son deuxième album. Il y a plein de trucs que j'ai fait. C'est moi qui négociais dans l'ombre. Tu vois. Ce qui ne surprend pas quand vous voyez ma discographie avec les Américains. J'avais un talent pour le contact avec les gens et tout. Et je dis ce que je fais pour lui, pourquoi pas le faire pour moi. Donc je commence à contacter LMNO, Wild Child, John Robinson, D-Clem. Ça s'enchaîne et tout. Je découvrais des talents, tac. Comme Us Kingpin, un gars qui avait sur ses mixtapes, ses premières mixtapes pour être Saigon, tout ça. Et derrière, je fais mon premier album Musicio, et c'est là que ça commence.
Ok, donc en fait, entre 2007 et 2011, parce que Musicio sort en 2011, il y a tout un cheminement où tu te réinventes artistiquement, tu reprends contact avec des gens. Parce que moi, le premier crédit que je vois un peu officiellement sur Discogs, c'est en 2008, un groupe qui s'appelle The Familiar Strangers. Je sais pas si ça te rappelle un truc ou pas.
Ouais, ça me dit quelque chose.
Voilà, en fait, c'est vers ces eaux-là, tu vois, 2008-2010, t'as aussi Mugen Love qui sort, tu vois, un album instrumental.
Ouais, exact, ça, je m'en souviens.
Donc, tu vois, fin des années 2000, début des années 2010, c'est là où, en fait, où on retrouve tes premières traces discographiques, en tout cas, qui sont répertoriées, tu vois. Donc, il y a vraiment un moment de réinvention et de recréer une identité pour ce fameux Kyo Itachi, quoi, c'est ça ?
Le truc que je peux dire, c'est qu'au départ, quand je faisais des prods, j'essayais de faire comme. Je voulais être comme Reza, comme Madlib, comme Scratch.
Tous tes modèles, quoi.
Ouais. Mais j'arrivais pas, j'étais nul, j'étais claqué. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je vois que j'arrive, je commence à comprendre les coupages. En fait, je me prends la tête, tu sais, à trouver des vibes, même si ça sonne bizarrement ou pas, mais tant que ça me plaît, moi, je fais et je vois que ça plaît aux rappeurs, que les quinries comprennent vite. Et du coup, c'est comme ça que, oui, je me réinvente et que je progresse, en fait. J'en fais tout le temps des prods. Dès que je rentrais du taf, je testais.
Donc oui, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à côté de ça, tu as toujours ta vie où tu bosses, où tu as 8-17 ou 8-18 heures, je sais pas. Enfin, tu vois, une journée normale, quoi. Tu es 35 heures, quoi. Ouais. Et tu faisais ça sur le côté, le soir, le week-end.
Ouais,
voilà,
le soir. Ouais. Moi, c'est tout le temps le soir. Ouais. Mais jusqu'à aujourd'hui, je travaille. Et dès que je rentre, on va dire, je vais dormir et dès que je me réveille, boum, moi, c'est 18 à très tard.
L'hygiène de vie des producteurs, ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dès ce premier album, effectivement, tu en parlais, Musicio, qui sort en 2011, il y a des White Child, il y a des Wordsworth, il y a des Us, t'en parlais justement, Us of the Connection. T'as Copyright aussi, un mec pareil, tu vois, de cette scène du début des années 2000, etc. Donc, il y a vraiment eu un truc de... toutes ces connexions que tu arrives à faire, tu arrives déjà à les réunir sur ce premier album de producteur, un peu compilation, quoi.
Oui, je mets un peu de temps, mais pas trop. C'est-à-dire un an, deux ans. Et à l'époque, c'était des Western Union, puisqu'il faut savoir qu'un riz, c'est pas gratuit.
Oui, bien sûr.
Ça va dépendre du feeling. Il y a des gens que j'ai eu gratuits, il y a des gens où il fallait payer. Et tu avais ton son. En fait, pour moi, la mentalité que j'avais à l'époque, que j'ai aussi toujours, même si bon, je ne suis pas dans l'optique de payer... et tout, puisque j'estime avoir un statut où tu peux faire un échange de bons procédés et tout.
Bien sûr.
Mais avant, quand t'es personne, je pense qu'il fallait investir sur soi-même. Chose que j'ai fait, donc il y a eu des sacrifices, du temps et de la patience surtout. Et la plupart des gens que j'ai voulu, je les ai eus. Il y a des gens, c'était un rêve pour moi. Quand tu vois des Pete Rock ou des Marco Polo, ou des notes, partager ce que tu fais, ou te donner une éloge. C'est, on va dire, un des meilleurs compliments, tu vois. Donc, je sais d'où je viens, d'où je suis parti. C'est vrai que j'ai eu des Western Union, tu vois.
C'est un truc intéressant, c'est que cet album sort en 2011,
ouais.
Début des années 2010. Depuis quelques années, le rap français était complètement en train de changer. Toi, tu fais le choix, justement, de produire pour des Américains ou de faire des choses avec des Américains. Est-ce que tu gardais un pied dans le rap français ou il y a un moment donné, lâché le truc et tu sentais que le son du rap français était plus fait pour toi, ou est-ce que voilà, c'était quoi un peu la démarche pour toi de faire des choses avec des Américains, pas nécessairement ici en France?
Ben, y avait la facilité, c'est-à-dire je faisais une prod direct au bout d'une semaine, deux semaines, j'avais deux couplets, un refrain, tiens, un morceau entier. Et avec le rap français, j'avais pas d'accès
ouais.
pour produire, je sais pas, je vais dire un nom au hasard comme ça. Un Nesbill, par exemple. Et rien contre lui, hein, je kiffe Nesbill.
Oui, tout. Et puis c'est une des têtes d'affiche de cette époque-là, on rappelle
voilà,
ça.
Voilà, mais c'est pas accessible. Tu vois, je produis des carrés. Les gens que je connaissais autour de moi qui rappaient, bah, en fait, c'était pas du tout accessible. Tu pouvais pas les contacter comme ça. C'était pas comme aujourd'hui, t'as Instagram, t'as Facebook, tous ces trucs-là. C'était déjà là, enfin, pour Facebook. Mais c'était pas accessible, ouais. C'était
alors
pas
que,
dans ma tête.
Ouais, alors fait. Que t'avais cette accessibilité, pardon, avec toutes les connexions que t'avais pu faire les années précédentes avec des carrés.
Avec des carrés, en France, je calculais pas. J'écoutais un peu, mais je calculais pas le rap français. Je connaissais plein de choses, mais je calculais pas. C'était pas dans ma tête de produire en France. Avec l'expérience que j'ai vécue avec les rappeurs français autour de moi, ça me donnait pas envie. Déjà, eux qui étaient pas connus, c'était compliqué, alors... Je me disais, imagine les têtes d'affiche. Donc, du coup, à part Kondo, là, qui m'avait dit qu'il y avait quelque chose, les autres en dessous, c'était compliqué. Donc, je considérais même pas. C'est-à-dire que dès qu'on m'interviewait, je disais, le rap français, il y a trop de chichi. Je disais ça à l'époque. Les rappeurs font trop de chichi sans viser personne, mais c'était mon expérience.
Ouais, c'était un truc global, quoi.
Voilà. Et en fait, pour revenir à ce que... Bon,
Non, vas-y, je te laisse finir, ouais.
Et en fait, il y a un gars qui vient et qui me dit, ouais, j'ai vu une interview de toi, pourquoi tu parles du rap français comme ça et tout, moi, je peux te faire changer d'avis. C'est dans ma tête, je me dis, c'est qui ce guignol qui veut me donner des leçons et tout, tu vois. Il me dit, je connais des jeunes, ils te feront changer d'avis. Je dis, bah, comme je suis quelqu'un d'ouvert, je dis, envoie-moi des liens, on verra. Il m'envoie... Nekfeu, Alpha One, Gizmo, Dean Burbigo. J'écoute les quatre et je fais, ah ouais, il y a quelque chose et j'ai un coup de cœur, je ne sais pas pourquoi. Enfin, maintenant je sais pourquoi, mais à l'époque, je ne sais pas pourquoi, j'ai tilté sur Alpha One. Et moi, quand j'aime bien quelqu'un, il faut que je le contacte, il faut qu'il sache que j'aime bien ce qu'il fait, si on peut faire quelque chose. Et lui, il connaissait ce que je faisais et ça a démarré. Comme ça, on devait faire un EP ensemble. Et ça a terminé en maxi.
Le fameux maxi Mon Job.
Exact.
Avec le morceau Mon Job et le morceau Les Pensées de Fall. Et moi, c'est avec Les Pensées de Fall que je te découvre.
D'accord.
Tu passes par la fonte, ça plage. Car Fall alias Alphouane Albrano. C'est plus facile de m'exprimer via mon texte. Donc rime et me rappelle quand je devais écrire à mon père. Mec, mon
moi, il y a un truc qui me marque à l'époque quand j'écoute Les Pensées de Fall. C'est cette manière de découper justement. Qui est un sample qui est déjà connu dans, dans la boucle que tu as prise, qui est déjà connue dans le rap américain, notamment. Mais tu as une manière de la découper qui n'a pas été encore entendue. Et je capte, tu vois, encore une fois, c'est le groove et l'héritage musical dans lequel tu t'inscris avec ce morceau-là.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment moi ce morceau-là. Et je trouve qu'en écoutant Musicio, rétrospectivement, il y a plein de choses justement qui sont similaires, tu vois, dans l'approche. C'est-à-dire, ce son très new-yorkais, tu vois, de manière globale. Ce savoir-faire de la découpe du sample et aussi du groove, tu vois. On sent qu'il y a t'as un attachement à une certaine forme de groove que dans une partie du rap français qui reste sur ce genre de sonorité à cette époque-là, n'a pas. C'est-à-dire que c'est très droit, le rap français.
Oui,
boom bap, tu vois. Si on,
ouais,
si on
quantisé,
on...
comment.
Exactement, quantisé, c'est très droit. Toi, il n'y a pas ça, justement. Je trouve que c'est quelque chose qui ressort de tes premières sorties. C'est encore une fois cette science du groove, quoi.
Oui, après, je prends ça de ce que j'écoute et aussi de la manière de... Tu sais, quand j'ai voulu me faire, tu vois, et de l'école avec Azaya, en fait. Azaya, il parlait beaucoup de ces trucs quantisés, tout ça. Et on a des...
Pour que les gens comprennent, parce que c'est un peu technique, la quantisation, c'est une option, un effet qu'il y a sur les machines de production... pour tout réaligner correctement dans les temps.
Oui.
C'est ça.
Ou même des fois, quand tu prends un MPC de base, c'est déjà quantisé.
C'est déjà quantisé, d'accord.
C'est-à-dire, si tu fais une rythmique, ce sera...
Et donc, moi, en tapant sur les pads, en fait,
ça
automatiquement, ça te met dans les temps.
Automatiquement, voilà. Voilà. Et du coup, moi, jusqu'à aujourd'hui, je fais, comme je dis souvent, mes micmacs. Mais c'est... je trouve que c'est magique, en fait.
Bien sûr.
C'est quand tu pars de rien, de zéro, et que derrière, tu as une prod à la fin, tu prends un sample, un kick, une caisse claire et tout, la basse, tout, bah, le coupage. Déjà, dès que tu appuies sur les pads, dès que tu joues avec, je trouve que c'est quelque chose de génial.
Bien sûr, il y a un truc qui vous rapproche de musiciens instrumentistes. Ouais. C'est-à-dire que là, vraiment, vous avez ce rapport avec la machine et votre jeu, en fait. C'est votre propre jeu à vous dans la relation avec l'instrument.
Et puis, c'est surtout comment on entend le son, puisque tu peux prendre 20 gars qui auront le même sample, ils ne feront pas la même prod.
Bien sûr.
Donc, ouais, c'est de ça que j'ai mes techniques et je me suis affûté au fur et à mesure et tout.
Est-ce que tu sens, parce qu'encore une fois, tu étais très branché rap américain pour toutes les raisons qu'on a évoquées, est-ce que tu sens que ce morceau-là, je pense notamment au Pensée de Fall qui a été clippé en plus, super clip de la 75e session, exact. Est-ce que tu sens que d'un seul coup, en France, ça commence à s'intéresser à toi, tu vois, du genre, c'est qui ce mec, est-ce qu'il y a des gens qui prennent contact avec toi, ou ça reste un truc un peu circonscrit juste à ce morceau-là, et voilà quoi.
Non, puisque je m'en rappelle, à ce moment-là, je suis en contact, je suis bien en contact avec Nekfeu, et je lui envoie des prods, je m'en rappelle, j'ai une anecdote, hein, je ne l'ai jamais dite, mais un jour, je suis à New York, on est en 2012, ou 2013, je ne sais plus, mais j'ai été les deux ans, j'ai été à New York, là, 2012-2013.
OK.
Et il me dit, frère, je suis dans le métro. Il m'appelait le magicien, Nekfeu. Et il me dit, envoie-moi des... Est-ce que tu as les pistes de tel et tel track ? J'ai écrit là-dessus pour mon album. À l'époque, par contre, il était signé chez Yoni et Willy.
Tout à fait, ouais.
Et il y avait des trucs. Je n'ai jamais entendu les morceaux. Mais après, par la suite, il y a déjà eu des connexions comme Alpha qui allait voir les 5 majeurs là dans
tout à fait d'ailleurs
Rennes ou Nantes là
ils se croient qu'ils sont de tu mets le doute maintenant
moi
l'ouest, en tout cas l'ouest de la France mais c'est vrai qu'effectivement tu as des productions qui se retrouvent aussi sur un des albums de 5 majeurs
j'en ai deux la lettre et
je les ai notés je vais dire lettre. Ça lettre ouverte et gère tes affaires
voilà.
Fat comme l'herbe, qu'on se moquait, al comme les rentrées, si des pas de problème, on te colle tes quatre mollets entre elles. Tu rêves de chauffer l'antenne d'action, frère, un conseil, cache ton seum, tes comptes et lâche ton club de bonnes landais.
Gère tes affaires, qui est devenu le générique du règlement. Il y a peu de gens qui le savent.
Exact, c'est vrai, putain, ouais. Exact.
Parce qu'à un moment, je regardais le règlement, je disais, mais c'est moi, ça.
tu as demandé des parts, tu as demandé des tales. Le règlement, paye-moi.
Donc, je dis, ouais, il y a beaucoup de gens qui entendent ça, il faut qu'ils sachent que c'est moi qui fais ça. Mais ouais, il y a eu des connexions. J'avais des Jazzy Bass, des Dean Burbigo, qui, quand j'avais fait un clip avec Songo, qui m'avait félicité pour mon job. Mm-hmm. J'avais beaucoup de retours là-dessus.
Oui, donc mine de rien, ça a quand même eu son petit effet. Quand
même, oui, il y a eu un petit effet, puisque au début, je ne produis pas de rap français. Et après, c'est resté. Hein. Ce truc de mon job, là, il n'y a pas longtemps, Eloquence, il m'avait invité dans un studio. Il y avait un gars, il me dit, tu peux me redire ton blaze et tout, l'ingé son. Je dis, ouais, Kyo Itachi. Il me dit, mais je t'écoutais quand j'étais petit.
C'est génial, ça.
Et moi, je dis, comment ça, quand t'étais petit? T'avais quel âge? T'as quel âge? Il me dit, j'écoutais mon job quand j'allais à l'école et tout. Je dis, ah, ok. Je dis, ah, tu me rajeunis pas, là.
Ah, t'as quelques poils blancs dans la barbe, maintenant, Kyo, en même temps. Ouais. Parce que là, on parle de ça. T'as 30 piges au moment où ces morceaux sortent, alors que eux, c'est affectueusement, c'est des gamins d'une vingtaine d'années, quoi.
Mais ça, comment dire, c'est comme si ça portait des fruits.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils grandissent, mais ils savent.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est toujours bien de produire des jeunes, et j'encourage les gens à produire des jeunes, puisque, tu sais, ça, c'est comme ça, ça fait une boucle, quoi, tu vois.
Et puis en plus avec Alpha, ce qui est cool, c'est que il y a toujours une petite suite entre vous. C'est-à-dire que en 2014, tu produis sur le premier Alpha, le premier
Ralph Lauren,
merci. Le morceau Chausse les crampons avec Nov.
Ouais, exact.
Ce monde part en live, je te l'apprends pas. Les pauvres s'écrasent en bas aux quatre coins du globe, c'est coup d'état et attentat. Les parents One m'ont toujours tenu loin du poste, donc ne t'attends pas à ce que je parle de street air, de plan à 400 bars, de cam grave rentable, de business.
Si il y a quand même eu, du coup, un truc qui s'est créé entre vous, quoi, sur une forme de confiance artistique, quoi.
Ouais, parce que depuis mon job, il passe à la maison, je faisais écouter des prods, et l'anecdote sur...
Quand on chausse les crampons ?
Non, l'autre titre que tu m'as dit.
99 là. En puff ?
Non, d'avant.
Ah, avant, Les Pensées de Fall.
Voilà,
Les Pensées de Fall.
Ouais. Il m'appelle au téléphone, il me dit, je t'envoie un sample. C'est lui qui m'a envoyé le sample.
Ah, trop bien.
de dépenser de fal et j'ai fait ma sauce. Et il a fait sa sauce ensuite, mais on se voyait souvent. Ouais. Et on a gardé bon contact. T'as eu des fois, quand quelqu'un réussit, tu peux... tu sais, c'est l'être humain, c'est comme ça. Tu dis, ah, je le connais, il a réussi, je vais lui demander des queues trues, il va me mettre en avant, tout ça. J'ai jamais rien demandé, tu vois, j'ai fait mon truc. Tu sais, j'ai fait mon truc, j'aime la musique, j'ai fait mes affaires. Et je pense que c'est ça que lui, il respecte aussi, tu vois. Donc, quand on s'est connecté, puis là...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Toujours été cool. À chaque fois que je l'ai eu, ça a toujours été cool. Tu vois, donc quand je lui ai demandé d'être sur Solide, ben, il m'a dit oui, ça dépendra de la prod. Mais ça s'est fait au final, donc ouais, je suis très content.
2012, c'est aussi la sortie d'un album que tu produis qui est important, je pense, dans ton parcours, qui est le Hard Body Hip Hop de Rusty Jux.
Exact.
Rusty Jux, c'est un rappeur de Brooklyn, si je ne dis pas de bêtises, signé sur Dog Down, label historique du rap new-yorkais, puisque c'est le label du bootcamp.
Oui.
Comment tu fais cette connexion-là, qui est vraiment importante dans ton parcours, puisque c'est quelqu'un pour qui tu vas beaucoup produire, vous allez sortir d'autres disques ensemble, voilà. Comment ça te fait cette connexion-là, et qu'est-ce que tu en as un peu tiré artistiquement, quoi ? Déjà un peu sur la connexion, comment ça s'est fait ?
Bah déjà, de base... j'ai dit Wu-Tang, Mobb Deep, mais il y avait le bootcamp.
Hein. Évidemment, c'est un peu la sainte trinité de cette époque-là du rap new-yorkais.
Ouais, ouais, obligé. Et puis c'est resté tout ça là, c'est dans mon ADN et tout. Et 2004, je suis dans le métro, je vois un concert et tout, je vois marqué en gros, hein, tu sais, je faisais, c'était Envers, Pigalle, Envers. Mm-hmm. Tu vois, dans ce sens-là, pour aller à la chapelle, je descendais à la chapelle moi. Et en fait, tu as le marché là en bas et tu voyais dehors et tout. Il y avait les murs avec les pubs et tout. Et je vois une grosse pub. Élysée Montmartre, Elta Skelta, OGC. Je deviens ouf. Je dis, c'est quoi ce bordel?
Donc, qui étaient les groupes du bootcamp, justement.
Ouais, ouais, en 2004. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai tracé direct à la première Fnac que je pouvais trouver. J'ai pris les places pour Azaya et mon pote Asco. On voit le concert, Sean Price se loupe. Tu sais, parce qu'il est alcoolisé, ils se souviennent pas trop des paroles. C'est pas l'époque forte, il y avait eu un trou, tu vois.
Ouais, tout à fait. Et ça revient vers 2005, au moment où ils ressortent des disques, là.
Ouais, en solo.
Monkey quoi, Bars, etc.
Là, il est chaud. Ouais. Mais entre la période qu'on a connue de la fin des années 90 et le début, quand il vient à l'Élysée Montmartre, j'ai le souvenir, les gars, ils font « ouh », des trucs comme ça, tu vois. Et il dit, ah ouais, c'est comme ça, bon, on vous laisse avec Rusty Jux. Et moi, je regarde mon pote, je comprends pas, je dis Rusty Jux. Ce blaze-là, il me dit quelque chose. Et j'ai dans la tête le Magnum Force, le deuxième album de. Mais à l'époque, il est pas encore bien. Je vois un mec tout maigre avec une casquette, sa tête est dans la casquette, elle est grave large.
La mode new-yorkaise de l'époque.
Tout seul. Ouais. Un long t-shirt de ouf et tout. Et boum, il prend le micro, il fait quatre morceaux, pas besoin de backer, une voix, tu sais, une force. Je sens une force dans un mec tout maigre, tu vois. Et je dis, là, à ce moment-là, il me marque, tu vois, ça reste dans ma tête. Et quand MySpace, toute la folie, là, arrive et que tous les artistes ont des MySpace, moi, c'est ce gars-là que je vis. C'est-à-dire que quand je vais pour la première fois à New York en 2006, je me rappelle que la veille du départ, c'est là que j'arrive à le joindre. Il me dit de passer, il me dit la somme et tout. Et moi, la somme que j'avais, je dis non, t'as vu, là, je rentre en France, j'ai besoin de cet argent-là pour, tu sais, vivre, quoi.
Bah, bien sûr.
et pas mon trouvé en chien, et je dis ouais, c'est resté. Donc de 2006, on passe en 2009, et 2009, je suis toujours coaster, et Kyo, mais je dis, je voulais rapper moi avec lui. Il fait le couplet il démonte, et je me sens pas à la hauteur en fait. Je me dis, en tant que rappeur français, il me mange 20 fois, qu'est-ce que je peux faire? Mais la prod, c'est moi. Donc je garde ce truc-là. Et je sais pas, en 2011, ça se débloque, il est OK. Donc je m'organise avec mon équipe, et à l'époque, j'ai une bonne équipe, pour faire Hard Body. Et Hard Body, c'était un truc de ouf parce que...
Sachant qu'il a donc sorti un premier album avec, tu parlais de Marco Polo, justement, en 2010, je crois, de mémoire. C'est ça. Qui a marqué justement ce registre-là et cette bien scène-là, justement, du boom bap new-yorkais, justement, c'était un album un peu important. Donc, c'est un mec qui commence à faire parler lui aussi, quoi.
En fait, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est déjà, il y avait eu Marco Polo et Tori.
Tout à fait.
Et juste après, il y a cet album-là. Et en fait, il avait envoyé, Marco Polo avait envoyé des prods à Rusty Jux pour qu'il choisisse. Il a rappé sur le tout. Donc, ils ont dit, ben, autant faire un projet en commun. Et j'arrive derrière. Et comme c'était mon but et que c'est, la porte est ouverte, je lui envoie, il pète un câble sur les prods. Et un soir, il réalise un de mes rêves, mais que je ne m'y attendais pas du tout. C'était comme ça. Hein. Ça veut dire, à un moment, il me dit quoi? Il me dit, yeah, Kyo, vas-y, check ton mail. Il faut que tu coupes mon couplet quand je dis tel mot. Donc j'écoute, tac et tout, je coupe, je dis c'est bon. Il me dit ouais. Il me dit parce que là, il y a Razor Gedman qui va poser. Tu sais, je vois le mail, je deviens fou et tout, et je dis quoi? Bah, même pas deux jours après, c'était posé. Yo, crime is money, that's the name of the game. Just get paid, nigga, fuck the fame. Lay back, smoke me a pound. Then I compose a furious sound. Et derrière, je vais là-bas là, pour clipper des clips pour l'album. Et je faisais aussi un album avec des gars de Baltimore là, qui s'appelle Dirt Platoon. Et ils avaient invité Rusty, ils avaient fait un son qui s'appelle Dirty Work. Et en fait, moi, je faisais un petit documentaire Cypher, je mettais un poste à terre, je faisais rapper les mecs et tout, partout où j'allais. Hein. Skyzoo, Toré, plein de gens, Warsworth. Partout où j'allais dans New York, je filmais les mecs, leur Dave, merci, j'ai tout fait. Et à un moment, je mets le poste, et il y a Rusty et tout, il y a tout le monde. Et il y a quatre mecs qui rappent sur des marches. Et ça devient plus tard Banca FM, en fait. C'est les potes d'enfance de Rusty. Et moi, quand je les vois rapper, je pète un câble et tout. Et quand je rentre, déjà, dès que je suis venu, c'était un peu hostile. Hein. Tu sais, les gars, ils me regardaient, ils ne savaient pas qui j'étais. Dès qu'ils ont entendu Rusty me dire « Ouais, Kyo, viens dans le champ de vision du clip », leur visage, il a changé, c'était moins hostile. Ils m'ont dit « Ouais, il faut que tu produises mon album. » Tac, et tout. Au début, ils me regardaient genre « C'est qui ce négro ?» et tout, tu vois. Et derrière, on fait un EP. Après, je ramène Azaya dans le truc, je ramène Venom. Et on a fait un peu comme le Wu-Tang. On a fait le EP, on a fait quelques solos et on a fait l'album, tu vois.
J'aimerais qu'on parle de cette période des années 2010 où tu produis beaucoup dans le rap américain. Tu fais des albums à ton nom, des compilations, tu produis des albums pour des rappeurs. Il y a vraiment une période à partir de la moitié des années 2010, vraiment, où il y a beaucoup de choses qui sortent. On reviendra sur le rap français évidemment après, ça permettra de raccrocher évidemment à la sortie avec Danny Dan.
Bien sûr.
Où voilà, tu sors des albums comme Macaco Sapo, tu fais Jupiter AK, The Great Red Spot avec Nolan the Ninja, mais qui est aussi un groupe de producteurs que tu as avec justement Azaya et Astronaut.
Exact.
Genki Dama, enfin, tu as des compilations, des trucs comme Genki Dama où il y a quand même des Planet Asia, des Big Twins qui font partie d'une famille, d'une Famous Mob, donc groupe lié à Mob Deep. Smith & Wesson, t'en parlais avec le Bootcamp.
Ouais.
T'as un morceau avec Sean Price aussi qui sort et Royal Flush,
bien sûr,
qui est sur Rest in Power. T'as Keith Murray sur Nightlife, les Artifacts, Black Poet. Enfin bref, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Comment ça fonctionne du coup à ce moment-là? Est-ce que tu fonctionnes à la commande avec les artistes? Est-ce que tu essayes de cibler pour eux, tu vois, parce qu'il y a aussi donc les albums que tu produis spécifiquement pour eux, comme Miles Grimes, The Skanks, etc.
Ouais.
Et voilà, et comment tu développes ton son? Est-ce qu'il y a une réflexion sur comment développer ton son, ou est-ce que c'est par la force du travail et par la force de faire les choses que tu arrives à comprendre des choses que tu aimes faire et que tu aimes développer, quoi?
Oui, en fait, t'as vu, c'est super dur à expliquer, en même temps, c'est très simple. c'est que oui, il y a eu beaucoup de réponses dans ce que tu viens de dire. C'est que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de prod. Je m'étais pété la jambe. J'avais fait 27 prods en une journée. Parce que j'avais une attelle, je ne pouvais pas bouger et tout.
Okay.
Et un jour, j'ai fait...
C'était quoi? C'était genre un accident de la vie, du travail?
Ouais, j'avais joué au foot, j'ai fait l'imbécile. Okay. Je me suis niqué la jambe, hôpital, tout ça. Et puis voilà, presque une année à la maison.
Ah ouais, quand même. C'était quand même une grosse blessure.
Ouais, non, c'était chaud et tout. Et derrière, donc je faisais des prods tout le temps. C'est comme ça que je m'occupais et tout. Et c'est resté. Ce truc-là de produire comme ça, je ne produisais pas... Ouais, il faut que je batte un record 27. C'était pas ça. C'était mon rythme. C'était comme ça, tu vois. Je suis quelqu'un dans la vie de nonchalant, mais dans ma tête, ça va super, super vite. Et quand je fais les prods, je comprends ce que moi, je veux faire. Je sais ce que je veux faire, à quel moment, quel sample.
Je pense que c'est le fruit de la discipline, en fait, et des années d'entraînement aussi.
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis des techniques, t'entends une prod, ça t'influence. Tu vas pas faire pareil. Parce que je déteste faire pareil et tout. Et puis même, si je le voulais, j'arriverais même pas, tu vois. Je préfère être moi. Donc, je fais mes trucs, mes vibes. Et dès que j'aime, c'est le principal. C'est-à-dire, je suis quelqu'un... T'es dehors, tu peux douter un peu, mais dans la prod, dès que je suis assis devant le sampler, n'importe qui peut me dire « ouais, c'est naze, c'est pourri, ça va rien me faire ». Donc du coup, ouais, tout ça, ça vient, il y a des concepts qui viennent dans ma tête, et par rapport à tel rappeur, il vient de tel endroit ou quoi. Par exemple, je donne l'exemple de Myles Grimes avec Carnage. Mm-hmm. Bah en fait, lui, c'est le protégé de Razor Ragged Men. Il avait gagné un concours de Razor Ragged Men où il rappait sur une prod du bootcamp. Boom, boom, je ne sais plus le nom. Mais c'est un classique de Smith et Wesson et tout. Ça fait Boom Bye Bye.
Soundboy Burial.
Voilà, boom, exact.
Boom, boom, boom.
Voilà, c'est ça. Bah, il rappe là-dessus, il le plie et je deviens ouf et tout. Je le contacte. C'est Rusty qui m'avait dit de contacter ce gars-là. On est restés liés et j'ai fait son album. Et quand je fais son album... Lui, je l'appelais Carnage. Je dis, ouais, à chaque fois que ce mec-là, il rappe, c'est un Carnage. Donc, j'ai lié au personnage Marvel.
Mm-hmm.
Il y a toujours des concepts. Skanks, bah, il a pris mon truc. C'est-à-dire, comme c'est lui que je découvre en premier, bah, il a un cache sur l'œil. Mais en fait... C'est lié par rapport au concept de mon masque. Et du coup, on a créé le crew, la Banque FM, mm-hmm. DMC, c'est 10 à Rancard, et c'est des Shinigami aussi. Donc c'est pareil, mon label s'appelle pour le rap US Shinigami. Donc tout est lié, et j'ai toujours fait ça en fait. Que ça soit des albums, par exemple, je vais aller vite là-dessus, c'est Genki Dama. Le concept, c'était quoi?
Qui est une des compilations que tu sors justement, voilà, à cette époque-là.
Comme on a parlé de Musicio, pour moi, mon deuxième album studio compile, c'est ça.
C'est Genki Dama.
Et en fait, le concept, c'était de faire un triple vinyle. Je voulais faire un triple vinyle qui s'ouvre en trois, comme ça, avec des rappeurs. Donc le premier, c'était avec des rappeurs connus. Le deuxième, avec des rappeurs que je connais. Et le troisième vinyle, avec des rappeurs que je découvre. Donc il y a 30 sons faits que à la SP1200.
Et c'est très bien que tu en parles parce que je voulais t'en parler. Ton son D'accord. change à cette époque-là, je trouve.
Oui.
Et c'est parce que, justement, tu passes à l'ASP, du coup.
Oui. Et en fait, l'ASP, j'avais déjà fait Météorite. Mmh. Météorite de Rusty Jock, que j'avais fait. Où il y a mon son dedans, mon son préféré.
C'est lequel?
C'est Universal Sean.
OK. Qui est un hommage à Sean Price.
Voilà. My big brother Sean changed my whole life, picked me up and put me on. Sean was the mentor, Jux was the protégé. Everybody knew he was the sickest with the poetry. Et en fait, dans le Genki Dama, sachant qu'il n'y a que 12 secondes de sample, faut être vachement créatif. Parce que c'est pas de la triche, mais les gros producteurs comme Lord Finesse, Ezimobi, tous ces gars-là qui utilisent... La SP1200, Pit Rock. Ouais. Souvent, ils mettent le S950 en dessous.
Qui est un sampler, c'est ça?
Ouais, Akkad et tout, et qui le relie. Ça donne plus de... Tu vas faire juste les drums, en fait, avec la SP.
Pour garder le grain un peu spécifique de la SP12. Que les gens comprennent bien. Donc, la SP12, c'est une machine qui est contemporaine de la MPC. Donc, début des années 90, qui se popularise. Mais la particularité, comme tu disais, c'est qu'elle a très peu de mémoire. Et exact. Que du coup, quand tu travailles un sample, une boucle ou un son, tu peux le détuner. C'est-à-dire, voilà, tu peux le dépitcher, etc. Et en fait, ça donne un grain très sale qui a fait l'identité du rap new-yorkais.
Un truc crunchy, granuleux.
Exactement, qui a fait l'identité du rap new-yorkais.
Ils appellent ça l'aliasine.
Ok, ça, ouais. Je ne connaissais pas.
Ils appellent ça l'aliasine, ouais.
Ok.
Et ouais, bah, c'est ça qui m'intéresse. C'était mon rêve. Hein. C'était le sampleur de Madlib pour moi, mm-hmm. de Pitrock, tout ça. Donc, je l'ai eu, j'ai voulu faire ça. J'ai fait Météorite. Et après, j'ai dit, je fais un vinyle collector et que j'ai tout vendu. Hein. J'en ai aucun. J'en ai fait 500 qui valaient très cher. Et les gens, tout le monde l'a acheté. Il y avait un manga à l'intérieur, un poster. C'était vraiment un truc de fou, ce projet. Et le Rest in Power que je fais après, mm-hmm. qui sort sur le label d'Azaya, là, Brand Connection, mm-hmm. bah, c'est un hommage à ma mère, à Sean Price.
OK.
Donc, j'ai des morceaux de ouf dedans, comme celui avec Chino XL, mm-hmm. Smooth the Hustler, Rock Marciano, Sean Price, Royal Flush, comme tu as dit
tout à l'heure. Craig G. Lord of Mercy, t'en parlais tout à l'heure.
Ouais, Divi the Crest, mm-hmm. tout mm-hmm. ça. Donc, ouais, ouais. Et puis, t'as eu le morceau Lord of Mercy et Divi the Crest. C'était un revival un peu.
Du flip mode.
Du morceau qu'ils ont fait à Lyricist Lounge.
Ah oui, Zoom. Ces deux-là, Zoom. Produit par Notes.
Voilà, exact. Par Notes. Lights in the projects, devising my plan. Billionaire mind state, take it a fam. Diversify portfolios, time to expand. Signs of the time once was ocean is now land. Et ensuite, je fais Nightlife dans la même année. Mm-hmm. Et là, je signe avec un label hollandais. Et là, j'ai parallèlement, on a un maxi qui n'a rien à voir avec l'album, mais c'est au même moment avec Conway. Mm-hmm. Et dans l'album, ouais, il y a les Artifacts, Kef Murray, Rusty Jones.
Eto, tiens, tu parles de
Apple.
Tu vois, toutes ces nouvelles têtes qui arrivent dans le sillon de Griselda, parce que c'est le moment où ils émergent, genre, depuis 2015, depuis la moitié des années 2010.
Bien sûr.
Et donc, effectivement, tu as des nouveaux noms aussi comme ça qui sont mélangés à des légendes comme Artifacts, comme tu dis très bien. Donc, c'est. Tu sais, vu de France, il se passe plein de choses depuis le milieu des années 2010 dans le rap. Mais toi, tu continues complètement à sillonner un autre registre, une autre scène, tu vois, étant très présent. Quoi.
Moi, je vais être clair. Hein, t'as vu, je suis quelqu'un de clair et tout. C'est que je me dis à un moment, quand je fais tous ces albums-là, dès que j'ai fait Nightlife, que j'ai fait le maxi avec Conway et tout, après, je fais Skanks, Miles Grimes, Top Notch, un truc un peu dancehall et tout.
Rilio Sparkswell, tu fais plein de trucs.
Voilà, ouais. Black Ninjutsu, tout ça et tout, avec des gars que je découvre de là-bas. Je vois qu'il n'y a pas d'intérêt au niveau média depuis tout ce que je fais. Je dis, j'ai fait quand même beaucoup de projets. Et niveau média, il n'y a rien. Pas de chronique, je vois rien, quasiment rien. Il y a quelques trucs. J'ai eu quelques trucs passés sur la BCDR, des trucs comme ça. Mais sinon, je me dis, à l'échelle globale, avec tout ce que j'ai fait, il n'y a rien en fait. Et je fais une réflexion là-dessus. Et je me dis, mais c'est normal. En fait, comme je disais, j'étais un seum large. J'avais le seum des gens pour rien. Je croyais qu'un tel m'aimait pas. Mais en fait, c'était pas ça. C'est, je disais, j'ai produit des carrés, mais en France, s'en foutent. Les médias, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Lui, il a produit un Américain. Ça va leur apporter quoi? Donc, j'ai pris ça dans le sens inverse. Et je me dis, bah, je vais tester. Je vais faire un album de rap français, des rappeurs que j'ai écoutés ou des rappeurs en ce moment que j'aime bien. On est en 2015. Hein. J'ai
Sachant qu'en 2015, tu sors quand même un album. Alors après, ça reste quelque chose d'assez underground pour l'époque, mais tu sors l'album avec du Chopu Bukowski, par exemple.
Oui, non, ça a très bien marché. Et après, voilà, c'est son album. Beaucoup m'ont découvert aussi comme ça. Mm-hmm. Franchement, ça a bien marché. On s'est retrouvés dans des tops et tout. Et bonne entente avec lui, mais c'est un rap assez spécial.
Bien sûr.
Tu vois, quand je dis spécial, c'est pas en mauvais, tu vois.
C'est quelque chose de très écrit.
Voilà, tu vois, c'est...
Forcément, vu ce qui était en train de se passer dans le rap français en 2015, vous êtes pas sur le même... Vous êtes dans un truc un peu parallèle, quoi.
Oui, voilà, ouais. Exact. Ma poésie est mieux qu'une arme de poing vidée sur un député. Va te carréter, chèque dans le cul, je suis un déréputé. Ils ont le pouvoir, mais des culs, ils tapirent. Leurs piques, ils ne me toucheront pas, je suis un putain de fakir. Et du coup, je veux faire un album qui s'appelle Hot Sauce et Iceberg XXL. Hot Sauce avec les rappeurs un peu, on va dire, classiques, mm-hmm. qu'on connaît, les légendes. Et les tout frais, pour ça que ça s'appelait Iceberg. Donc c'était un album rouge, Hot Sauce. Mm-hmm. Et l'autre, tout était collé. Hein, et l'autre, c'était en glace, tu vois, côté froid, mm-hmm. pour la fraîcheur des nouveaux. Mm-hmm. Zéro track, j'ai réussi à avoir personne. Et c'est à partir de 2020, je revois Mash Traffic, mm-hmm. parce qu'on était en connexion en 2014 et j'enchaîne.
Mash Traffic, donc un rappeur qui est originaire des Antilles, ouais. si je dis pas de bêtises, hein,
qui ouais, Guadeloupe.
Exactement. Ouais. Et qui a sorti quelques trucs au début des années 2000, je crois, en France, de mémoire, en bossant notamment avec GMD, le mec qui faisait des prods pour DC, etc. Voilà. Et qui a toujours été justement dans l'underground lui
voilà,
aussi.
Voilà. Mais je ne le connaissais pas, je l'ai connu en 2014, via Azaya toujours. Mmh. Et ensuite, on se remet, on perd deux membres de notre famille. Enfin, lui perd un membre de sa famille important, moi aussi. Mmh. Lui, son père et moi, ma mère et tout. Et du coup, on est liés. Je ne sais pas comment ça se fait. On est
ouais, dans le deuil, en fait, vous vous êtes trouvé quelque
ouais,
chose.
Quoi, ma mère, elle est partie en 2015. Et lui, si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises non plus, je crois que c'est 2018. Mais en fait, quand il réapparaît, on parle un peu de ça et on est liés, tu sais, comme deux frères et tout. Et on décide de faire un album. Il fait l'album.
Qui vient de venir à Adjane Kepera.
Oui, oui. C'est ça. Voilà. On s'entend super bien jusqu'à aujourd'hui et tout. C'est un bon gars. Et c'est lui la clé, je le dis souvent, de tout. C'est-à-dire, moi, solide, ça n'avançait pas. Un jour, il me dit, je croise Hill des X-Men en studio. Envoie-moi une prod. Il peut être sur le track et tout. Que je vais faire pour ta compile. Je lui envoie. Il revient plus tard. Il me dit, je ne peux pas avoir que lui, je peux avoir aussi les X-Men. Moi, je pète un câble. Je dis, mais comment ça, les X-Men? Et je lui envoie, tac, il me renvoie le track. Je vois ce que c'est. Je deviens fou et tout s'enchaîne. Dès que le clip, en fait, sort, j'arrive à avoir les autres tracks.
Ah, il est casse, pile face, efficace. Nique les clos, nique ta race, vous êtes face à Jojo, Pippen, Stockton, Karl Malone, Lénard Malo. La vie est dure, les marshmallows, marche à l'ombre comme Gérard Lanvin, vent et blanc, le joujou.
L'album est encore incomplet, il reste deux tracks à avoir. Enfin, un track, c'est le track avec Alpha One, 99 en perf. Et comme je te disais en off, mon meilleur pote, là, Zaya, il me dit. La cerise sur le gâteau sera que tu es Danny Dan. Et je contacte Danny Dan et progressivement, le truc, il se fait. Donc, j'ai le track. Et le dernier track que j'ai pour la compile, en plus, c'est 99 en peuple. Donc, j'ai deux tracks de deux gros rappeurs. Mm-hmm. J'ai déjà des gros rappeurs sur le projet.
On va rappeler, hein, y a l'X-Men, tu le disais, Faflarage, Roca, Jean Jass, génération plus récente, Weedy d'Express D, t'as Nasme, t'as Cherio, beaucoup de monde, vraiment de la génération des années 90, et puis en plus des gens, Alpha One, Jean Jass encore une fois, qui sont plus récents.
Il y a Roméo aussi.
Tout à fait.
Donc c'est assez complet. Et je pouvais pas rêver mieux. Hein. Honnêtement, franchement, peut-être il manquait un gars, je pense. C'est Lino.
Ça quelque chose d'avoir Lino.
Ouais. Pour moi, même si j'ai aucun regret sur mon projet et tout, on peut pas avoir tout le monde. Mais
ça aurait été la cerise sur le gâteau.
Ouais. Cerise de cerise.
La cerise de la cerise, puisque t'as déjà Alpha One et Danny Dan.
Ouais. T'as vu, mais je peux pas.
Ça aurait été le glaçage en plus.
Ouais,
voilà.
Je te le jure. Voilà, ouais. En plus, j'avais déjà beaucoup de tracks.
Ouais.
Et même Lino, c'est pas quelqu'un qu'on peut avoir comme ça. Et non, si je devais dire un truc comme ça, c'était Lino.
Sur la chronologie des choses, quoi, c'est intéressant. J'ai une question à te poser juste sur la période Rap Quinry, où tu produis beaucoup de choses. Tu me disais que le morceau en hommage à Sean Price, c'est un morceau très important.
Oui.
En termes de prod, est-ce qu'il y a une prod en particulier cette époque-là, justement, au moment où tu passes à l'ASP et ça se sent justement encore une fois dans le grain. Je trouve que quand tu réécoutes toute ta discographie, entre le début des années 2010 et ce moment-là où tu produis beaucoup pour les carrés, il y a vraiment un changement de grain. Il y a toujours ton groove, etc. Tu vois, il y a vraiment un truc spécifique, mais sur le grain, ça se sent. Est-ce qu'il y a une production en particulier que tu aimes beaucoup et tu trouves un peu représentative de cette période-là?
Je t'en ai parlé, hein. Pour moi c'est Universal Sean.
Ouais, bah toujours celle-là, d'accord.
Ouais. Ouais. En fait, je me rappelle que quand je discute et Sean Price il venait de décéder et je parle avec Rusty, je dis ce serait bien de faire un morceau en hommage, il est ok, je sais que c'est frais, mais essayons et tout. Je cherche des samples et à un moment je tombe sur un sample. Et ce qui est compliqué avec la SP1200, tu peux pas mettre ce que tu veux comme ça et que il n'y aura pas la liasine toujours, tu vois. Mais plus un sample est, on va dire, nu, qu'il n'y a pas trop de battements, il n'y a pas trop de superflu dessus, ça va être beau. Tu prends juste une note de guitare ou de piano et tu le mets là-dedans, en fait, tu auras ce que tu veux. Mmh. Et là, toute la boucle, quand je le mets et que je le détune, je sens direct, genre, le truc de...
Il se passe quelque chose, une magie, quoi.
Après, je mets mes drums et tout, j'envoie, et quand il fait le morceau, ouais, c'est un de mes morceaux préférés, ouais, de cette époque. Parce que choisir des prods que j'ai faits, c'est soit No Print, là, à l'époque de Hard Body Pop, avec Razor Eggman, mais celle qui me parle le plus, ouais, c'est celle-ci, puisque je revois tout, tu vois, tout, même l'affection que j'avais pour Sean Price, que je trouvais qu'il était un des plus forts, quoi.
Super rappeur, qui repose en paix, effectivement. Et justement, sur Solid, tu venais de sortir toute une paire de rap qu'un riz avec un héritage musical spécifique qu'ils ont aussi, tu vois. Je pense que dans le choix des prods, ça doit se ressentir. Est-ce que, du coup, tu as senti une différence dans les choix de prods que pouvaient faire les artistes français, ou est-ce que ils faisaient pleinement confiance à ce que tu leur proposais, tu vois? Est-ce que tu as senti aussi une manière d'appréhender la musique ou de travailler un peu différemment?
Ben, moi, à chaque fois que je recevais un track, j'ai toujours... Parce qu'en fait, j'envoyais 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça dépend du MC et tout. Mais il n'y a pas eu de gens relous, et la plupart, ils disaient, ouais, j'ai choisi celle-ci. Et bim, j'attendais un peu. Et le temps passait, et après j'avais les morceaux, donc j'avais pas vraiment de trucs spécifiques. Ouais, et tout. C'est que je savais ce que je faisais, les sons. Par exemple, je vais donner une anecdote pour Ify.
Le morceau One Punch Man.
Voilà, je fais des prods et tout, il écrit, il fait le truc, mais après, il fait un remix, et je refais un remix, et on choisit, j'en fais 3 à 4, et ça donne.
Ils font du son pour de l'argent, mais le silence est d'or. L'équipe m'ont dit reviens, l'ancien silence est mort. La musique du ciment, oui je l'aime immensément. Plus que ceux qui fièrement l'exploitent financièrement.
Chacun a leur manière de faire.
Ouais, bien sûr. Ce serait quoi ton morceau là, avec 3 ans de recul, 2 ans pardon, ce serait quoi un peu le morceau que tu retiens le plus sur cette, en termes de production, j'entends, encore une fois, sur ce que tu voulais proposer, les directions que tu voulais prendre?
Parce qu'il y a le morceau de Faflarage.
Je suis embêtant avec mes questions à chaque fois. Il faut que tu choisisses un morceau.
Il y a le morceau de Faflarage, il y a le morceau de Danny Dan.
Ouais.
Qui, tu sais, le sample qui est choisi, la manière. Et puis, tu sais, on ne l'avait pas trop entendu. Et il fait pop style libre. Et là, le morceau, quand il a fait, d'ailleurs, quand il est monté à la place, ça a fait du bruit. Les gens connaissaient les paroles. J'étais étonné pour le peu de temps où c'est sorti. Les gens connaissaient les paroles.
Lyricis extraordinaire, pardonnez la franchise, mais va falloir s'y faire. Ils ont dû modifier mon carbone, mon père m'a vendu à la science. Non, je ne fais que raconter ma vie, écoutez dans l'album, vous méritez ma
vie. C'est curieux, c'est des trucs que j'aime bien, tu vois, pour faire varier l'album. Et puis il y a aussi le 99 en peuvent, c'est le titre où j'ai le plus de
stream encore aujourd'hui.
De stream,
quand on va sur tes pages, sur les plateformes de streaming, dans les morceaux que tu as produits, celui qui revient le plus.
Ouais, bien sûr.
Monsieur Lynch, au prix inadmissible. La fusillade, les balles qui sifflent, langage crypté, float 96. Enfant, je lisais Picsou parce qu'il nage dans le cash. Explorer le monde en vélo, je suivais le marchand de glace.
C'est pas une forme d'ironie du sort que ce soit un morceau sur lequel t'as juste une boucle et t'as pas de beat, alors que...
Ils appellent ça aujourd'hui du
drumless. C'est ça, tu vois.
C'est l'idée d'Alpha One, non?
J'ai mis
des drums, mais il m'a dit essayons sans les drums. Au début, j'ai trouvé ça spécial quand je l'ai reçu.
Alors que t'en avais déjà fait avec des quinries de...
Oui, j'ai déjà fait ça. Mais t'as le quinri, la langue, tu sais, un côté fluide. Et quand je l'ai reçu la première fois, j'ai pas tout compris au début, parce que c'était première écoute. Et après, à force, c'est resté. Et puis maintenant, j'arrive à le faire les yeux fermés, ça.
Donc je trouve ça ironique pour un mec qui a autant travaillé son groove, des rythmiques, que ton morceau le plus connu aujourd'hui, ce soit celui où il n'y a pas de rythmique.
Oui, c'est vrai.
Mais un bon producteur, justement, de ton registre à toi, justement, dans le sampling, etc., c'est quelqu'un qui sait aussi bien choisir ses boucles et bien les travailler. Donc,
c'est ce qu'on me dit. Voilà. Moi, on me dit souvent que ça, sur les mélodies, où il trouve ça, ces trucs-là.
Tu dis beaucoup, c'est-à-dire, c'est quoi la proportion de temps que tu prends à fouiller pour les samples sur l'ensemble de ton travail créatif?
Franchement,
En pourcentage, c'est encore du 50, du 60. J'arrive pas à me représenter, tu vois, sur le temps que ça représente encore aujourd'hui de diguer, tu vois, pour trouver des trucs qui sont peu entendus, tu vois.
Tu veux l'exemple de genre, là, je démarre, je vais faire une prod et cherche et tout, combien de temps ça prend? Ça dépend.
Ouais, j'imagine qu'il y a
pas de temps de fête. J'ai des vinyles, j'ai des trucs de brocante que j'ai pas ouverts, j'ai plein de trucs où je suis jamais en rate chercher. Et des fois, j'ai des idées. Je me dis, tiens, dans tel pays, la soul de tel pays, tac, et je fouille, tac, et je trouve des pépites. Tu vois.
Surtout qu'en plus, on va passer très rapidement dessus pour arriver sur l'album de Nidane, mais entre tout ce que tu as fait là, tu as aussi les beat tapes. Il y en a certaines, c'est du 8 bits, donc avec des sons de jeux vidéo.
Ouais,
il y a Afro, comment il s'appelle ce
Origin.
Afro Origin, où j'imagine c'est des musiques africaines, de musiques africaines. J'ai envie de le mettre au pluriel parce qu'il doit y avoir plusieurs choses. Donc, ouais, il y a vraiment toujours ce truc en fait, d'aller chercher dans plein de sources très différentes.
Ouais. Quand je fais Wasabi, c'est des sons japonais.
Et il y a Wasabi aussi, ouais.
Ouais, j'aime bien. Des fois, ça m'occupe. Tu vois. C'est... En attendant les tracks avec les MC, j'aime bien. Mais j'ai pas encore fait le projet genre vinyle, tac, de la 1 à la 22, tu sais, un peu comme Donuts ou...
Un espèce ou... d'album instrumental qui raconte quelque chose,
etc. Ouais. Ouais, un truc où chaque truc, c'est pas genre un pays, que de la 1 à la 22, tu voyages, quoi.
Ouais.
Je le ferai plus tard.
On le disait, donc, on y arrive à cet album avec Danny Dan, qui fait suite donc à César, qui était sorti sur Solid. On s'en parlait un petit peu en off. La rencontre avec Danny Dan, elle est importante, justement. Elle est intéressante dans le process que ça a été. Tu l'avais contacté par Facebook.
Exact.
Ça a mis un petit temps, finalement, à se concrétiser. Puis ça s'est fait pendant l'enregistrement de Solid. C'est un peu ce que tu m'as raconté. Je vais essayer de résumer un peu les choses. La question maintenant que je me pose, c'est à partir du moment où, justement, la relation artistique s'est établie, à quel moment est venue l'idée justement de travailler sur un album, parce que Danny est quelqu'un qui était devenu assez rare dans le rap français, la dernière fois, sa dernière sortie discographique, c'est avec Les Sages Po en 2017 avec Art Contemporain. Donc voilà, comment est née cette idée et comment elle a pu se concrétiser?
En fait, ce qui est magique, je trouve, c'est que c'est l'entente qu'on a quand on fait César, et la manière d'être, sa façon d'être à lui. Quoi de neuf, tout ça, Yokyo.
Le bagou.
Voilà,
le bagou de Danny Dan, voilà.
Et il est cool, c'est quelqu'un de cool et ça t'amène à un truc que tu as envie de faire et tout. On discute et moi, tu sais, je le vois comme un Talib Kweli, un Mos Def, un Common, un As, tu vois. Et quand je le vois comme ça dans ma tête, c'est comme ça que naissent les concepts. Donc je lui propose. Je dis, je nous verrais trop faire un album comme Nine Wonder et Buckshot ou. Et il ne sait pas trop à ce moment-là. Il dit, on verra, je ne sais pas, tac. Tu vois. Et à force, comme il le dit lui-même dans Rap Jeu, à force de morceaux, et qu'il commence à me connaître, puisqu'au début, il ne me connaît pas trop. On n'a fait qu'un track.
Bien sûr.
Tu ne connais pas trop, tu vois. Surtout dans ce milieu, les gens peuvent changer vite sur toi et tout. Et on fait un track, tac, on se voit. Tu vois, Rap Jeu, on se voit. On mange dans Paris. Il y a eu des connexions comme ça pour discuter. Et ensuite, ça va très vite, hein. Ça va très vite. On fait un morceau, tac, ça enchaîne, tac, tac. Après, on voit le truc, tel label, tel truc. Et on a fait beaucoup de morceaux, beaucoup d'essais, beaucoup de travail. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup.
Autant que toi, tu produis peut-être aussi, non?
Ah, je pense plus.
Ouais.
Parce que moi, tu sais, je vais faire une prod, je peux me poser. Lui, quand même, il y a la réflexion de... Tu sais, comment il construit, tu sais, les mots, ils sont... Tu sais, quand tu décortiques Danny Dan, c'est...
Oui, bien sûr.
C'est chaud, tu vois. C'est pas des mots jetés à l'appel, tu vois. C'est... Et moi, pour moi, je voyais un côté magique. Au début, je voulais appeler un truc lié avec la magie. Et puis après, t'as vu, hein, ça s'est fait au fur et à mesure. Après, tu connais, le temps passe. Ça a mis 2 ans. Et on a bossé comme des fous. Hein. J'ai dû faire plus de 200 prods, je crois.
Ouais.
Tu vois, si c'est pas plus.
T'as fait 200 prods parce que lui, il est très méticuleux dans son choix de prod. Ou est-ce que aussi, tu cherchais... une identité particulière, tu vois, pour être dans la continuité, mais aussi pour se démarquer de tout ce que tu as fait aussi, tu vois.
En fait, c'est complexe à expliquer. C'est soit, quand tu l'écoutes, tu ne veux pas faire pareil que les Sages Po, que tout ce qu'il a déjà fait,
bien
en
sûr.
Fait. Et il y a des trucs que moi, j'ai fait, je ne voulais pas faire pareil non plus. Donc
et comme tu as beaucoup fait, voilà. Ça devient de plus en plus ardu, quoi.
Mais je m'entends bien avec lui. À chaque fois, il était surpris par les prods que j'envoyais. Et après, voilà, c'est lui et son feeling, en fait. Tu ne peux pas forcer quelqu'un, tu vas dire, par exemple, ce beat-là, il faut que ça soit là-dessus. Donc, on a vraiment, on va dire, pris le nectar de ce qu'on pouvait faire tous les deux. Tu vois, après, les goûts, les couleurs, tout ça. Mais lui et moi, on est satisfaits de ce qu'on a réalisé et ce qu'on peut réaliser dans le futur, tout ça. Parce que il me connaît, tu sais que je me renouvelle tout le temps. À chaque fois, je l'appelais, Daniel, j'ai une idée de ouf. Tac, 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 j'enchaîne, je revois. J'ai dit, ah, je t'entends sur ça, ça. Non, c'était.
Donc, ouais, il y a vraiment cet échange artistique oui, jusqu'au bout. C'est-à-dire, t'étais pas. Tu lui envoyais les prods, il faisait les choses de son côté. Il y a vraiment eu cette
collaboration. On discute, ouais. S'il avait une idée, il me dit, qu'est-ce que t'en penses. Il m'a toujours demandé mon avis.
Est-ce qu'il y a une idée qui t'a challengé? Tu vois, en termes de production, j'entends. Vraiment, ouais. Un truc où t'es dit, j'ai jamais été sur ce terrain-là. J'y vais, tu vois. Sur une idée que lui, il a pu te souffler sur un des morceaux de cet album.
Ben, en fait, c'est un peu complexe à expliquer. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours envoyé les prods, les BPM. On discutait aussi du BPM, de pas mal de concepts pour que l'album, il ait de l'oxygène, que ça ne soit pas tout le temps la même chose. Mmh. Et comme je dis, je répète encore, je ne voulais pas sonner comme les Sage-Po parce que je pense que beaucoup de fans s'attendent à ça. Mmh. Mais Sage-Po, c'est Sage-Po. Mmh. Et Kyo Itachi, c'est Kyo Itachi. Donc, je voulais créer quelque chose, et lui-même, hein, de nouveau, tout en gardant sa base.
Et toi aussi, c'est-à-dire
que
toi aussi, tu ne peux pas te renier non plus, et voilà, t'as ton identité. Quoi.
Des trucs, ouais, bien sûr.
Je te posais cette question parce que moi, c'est vrai que, autant il y a ta patte, encore une fois, sur ta manière d'appréhender le sampling et le beatmaking, vraiment le truc de faire de rythmique, mais tu vois, des trucs comme... Mettre des lettres, par exemple.
Oui.
Tu vois, c'est un truc que j'ai jamais entendu dans ton répertoire, tu vois.
Oui, oui.
Ah, mettre des lettres, trop du flow, il faut du pot pour éviter mes tirs à la tête, leur effet domino. Je me répète énormément, voilà mon plus gros défaut. Pas assez de temps pour les sentiments, je suis en rodéo.
Même la manière d'avoir deux beats en un dans Place Haute Explosion.
Oui, bah ça, c'est une idée de Danny, par contre.
Tu vois, bah c'est typiquement des choses qui sont nouvelles chez toi, tu vois, je trouve.
Oui.
D'avoir des morceaux ou des sonorités comme ça.
Je te dis, c'est quand t'as... Je sais pas, moi. C'est comme si demain, moi, on me dit, ouais, tu dois produire Nas. Pour moi, c'est l'équivalent, tu sais, en France et tout. Donc,
je comprends.
Je me dis, j'ai ce gars-là entre les mains. Faut que ça soit magique, faut que ça soit innovant et tout. Et du coup, ben, j'ai essayé des techniques, des trucs même que j'ai jamais fait. Comme tu me mentionnais, mettre des lettres. Mmh. Ben, je contacte un compositeur allemand.
Et quoi, qui fait un loop maker, en fait, c'est ça qu'on voilà, dit aujourd'hui, aujourd'hui dans le jargon. Quoi, ouais.
J'en ai un aux US, là, sur l'album, pour le dernier son, là, mon territoire.
Ouais.
Ce que beaucoup pensent, que je vois hein, dans les commentaires, que j'ai samplé genre William Bell.
I Forgot to Be Your Lover.
Voilà, ouais. Le morceau soit de Dilated People ou de Arsenic. Mm-hmm. Là, ça n'a rien à voir. Le début fait penser, mais si tu as des bonnes oreilles, que tu écoutes le... truc, ça a rien à voir.
Tu comprends que c'est pas le son.
Ouais.
Tout le monde les mains en l'air, mon micro revolver altère mon nom, mon territoire, la terre entière. J'sais bien qu'on ne peut pas plaire à tous. J'plante ma graine et pousse rarement doucement la porte. Lève un pouce si t'adores encore. Et c'est numéro X.
Et du coup, ça c'est le compositeur américain et j'ai fait ma sauce. Et Maître des Lettres, qui est un de mes sons préférés de l'album, le fait qu'il y a le sample avec la respiration, bah en fait, ça m'a challengé.
Ouais, bah ouais. Et un Danny, clap, on entend un clap, tu vois, en termes de rythmique. Chez toi, d'habitude, c'est des snares, là, c'est un clap, voilà quoi.
Mais tout ça, c'est réfléchi de ouf, tu vois. C'est vraiment minutieux, tu vois, que pour la caisse claire, tout est choisi. Et Danny, comme moi, on le sait, tout est choisi. J'en discute avec lui, je dis, ouais, la caisse claire, on ne peut pas nous dire ouais c'est du rap à l'ancienne parce que la caisse claire déjà que je choisis, elle ne sonne pas comme en 94, en 95 et tout, tu vois. Donc, c'est... J'ai hâte.
Parce que c'est vrai qu'au moment où on enregistre, l'album n'est pas encore sorti. Quand vous écoutez cette émission, normalement, l'album est entre vos mains, puisque c'est le jour de la sortie, si notre calendrier est bon. Ouais. Donc ouais, effectivement, j'imagine que là, il y a une attente pour toi et aussi pour Danny Dan, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent aussi. Quoi.
Non, bien sûr. Ouais. Et pour l'instant, les trois singles qui sont sortis, on a des super retours. Franchement, on a des super retours. Il y a les médias qui jouent le jeu et tout. Donc c'est... Pour moi, en parlant pour moi, et peut-être même pour nous, mais j'oserais pas trop parler pour lui, même si c'est mon gars et tout, mais c'est genre, tu sais, de te retrouver, t'es là, t'as Booba, tu sais, dans les... Comment on appelle ça, là les...
Le panthéon du rap, je sais pas ce que...
Non, tu sais, les singles sortis.
Ah, les singles sortis, d'accord.
Tu vois des Nino, des noms, et tu vois ton nom avec le nom de Danny Dan. Je trouve ça magique, en fait, pour le style de rap que...
Que tu fais depuis maintenant près de 20 ans. Ouais.
Voilà, tu vois, et tu dis, tu arrives à ce niveau-là, tu vois, bon, c'est l'association des deux. Mm. Et puis, ça fait quelque chose, et c'est ça que je trouve magique, c'est de travailler avec quelqu'un qui a fait l'histoire du rap français, et tout le monde le sait, et d'arriver avec quelque chose de nouveau, tu vois. de la cover, tout, tu vois.
Ouais, tout à fait. On va arriver à la fin de cette émission. J'ai une dernière question à te poser. Ouais. C'est mes questions difficiles, là, celles qu'il faut, il faut faire un choix. Si aujourd'hui, tu dois rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas ta musique, quel morceau que tu as produit, tu lui ferais écouter pour qu'il comprenne ce que c'est ta musique et c'est quoi le nectar, tu vois, de Kyo Itachi.
Ahmed Johnson de Conway the Machine. Et en fait, c'est un track qui switch. C'est une de mes nouvelles techniques. Bon, j'ai rien inventé. Mais en fait, ça part du premier couplet, une boucle, refrain un peu bizarre et bam, sur une autre boucle. Et il enchaîne, tu sais, le morceau. Quand je le joue sur scène, tout ça, ça le fait, quoi.
The 4-4 Blue Steel. Just signed a new deal, but I will shoot still. Yeah. I'm in the hood rocking my jewels still. I don't play ball, but look like I signed a shoot deal.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Raphaël. Avec grand plaisir. Belle suite de promotion pour cet album avec Danny Dan.
Ouais, je te remercie.
Bah, avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir écouté BPM, le podcast de conversation avec les producteurs de Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes et les prochains, évidemment. Portez-vous bien et à bientôt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.